VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, il est 19h30 en temps universel, le Monde aujourd'hui, édition du mardi 29 août 2017. Et Kabadou en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, le président américain s'est rendu au Texas en soutien aux sinistrés de la tempête Harvey. Réunion d'urgence tout à l'heure aux Nations Unies sur la Corée du Nord. Pyongyang de nouveau pointé du doigt par la communauté internationale pour avoir tiré ce mardi un missile au-dessus du Japon. Le géant pétrolier Total mis à mal par la Guinée équatoriale qui lui réclame 48 milliards de francs CFA pour fraude. Et puis dans une dizaine de minutes, nous retrouverons Yacouba Ouadréogo pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Donald Trump est au Texas, frappé par des inondations sans précédent causées par la tempête Harvey qui menace à présent la Louisiane voisine. Le président américain entend par cette visite afficher son soutien aux habitants de la région. Les précisions de John Linden.
Accompagné de son épouse, le président américain doit constater les dégâts causés par Harvey dans cet immense État du Sud, le deuxième du pays par la taille. Pour l'instant, 3 décès liés à la tempête ont été confirmés ce week-end par les autorités. Houston, la métropole de près de 2,3 millions d'habitants, au cœur de la catastrophe, demeure sous la menace constante de la montée des eaux. Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a mobilisé 12 000 soldats de la garde nationale pour aider les sinistrés. Le président américain a promis que le gouvernement fédéral soutiendra une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. Pour l'heure, de nombreuses familles restent bloquées ou s'entassent dans des abris. Routes et autoroutes sont inondées, de nombreuses maisons sans électricité.
En Australie, 10 sites dont le nom comprend le mot nègre vont être contraints par les autorités d'être rebaptisés suite au relent raciste de leur appellation. Ces changements ont été annoncés en plein débat sur les statues héritées de l'ère coloniale. De nombreuses voix s'élèvent pour que le rôle des aborigènes dans l'histoire du pays soit mieux reconnu. La Corée du Nord a tiré un missile balistique mardi au-dessus du Japon, suscitant des réactions vives du Japon et de la communauté internationale. Les précisions avec Pascal Serra.
Une réunion est prévue en urgence cet après-midi à la demande de Washington et Tokyo pour discuter de cet événement qualifié de menace grave et sans précédent par le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé que quelque chose de fort devait être décidé après le tir de missile. « Trop, c'est trop », a affirmé la diplomate qui a rang de ministre dans l'administration américaine. La Corée du Nord, à travers son ambassadeur, a invoqué le droit à l'autodéfense face aux intentions hostiles affichées, selon lui, par les États-Unis. Au Japon, des messages ont été envoyés par le gouvernement à la population, leur demandant de s'abriter et des sirènes ont retenti dans le nord du pays. Le trafic ferroviaire a été temporairement suspendu. Le dernier missile a été tiré de Sunan, près de Pyongyang, lundi, et a survolé le Japon, a expliqué l'état-major sud-coréen.
La chancelière allemande Angela Merkel s'est prononcée pour une prolongation des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen en réponse à l'afflux massif de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Principale destination de ces demandeurs d'asile, l'Allemagne qui en a accueilli plus d'un million depuis 2015. En Afghanistan, des frappes aériennes ont emporté la vie de 13 civils. Des forces afghanes visaient une prison et une base talibane dans la province occidentale de Herat, mais ils ont également atteint des habitations civiles à proximité. Un porte-parole du ministère de la Défense a indiqué que 18 combattants talibans ont été tués. D'après l'ONU, plus de 1600 personnes ont été tuées et plus de 3500 autres ont été blessées au cours du seul premier semestre 2017. La Banque mondiale entend améliorer la gestion et la distribution des rares ressources en eau pour assurer la croissance et la stabilité géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, selon un rapport qui vient d'être publié à l'occasion de la Semaine de l'eau à Stockholm, en Suède. Le mauvais approvisionnement en eau engendre des pertes économiques allant jusqu'à 21 milliards de dollars par an dans cette région. De passage à Rabat, au Maroc, le ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Juedo, a annoncé que deux hommes soupçonnés d'avoir des liens avec le double attentat commis en Catalogne les 17 et 18 août ont été arrêtés au Maroc. Il félicite d'ailleurs l'étroite collaboration entre les deux pays. Toujours à Rabat, après une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, l'adhésion du Maroc à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, communément appelée la CEDEAO, pourrait être confirmée en décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 11 passagers d'un bus près de la ville pétrolière de Port-Harcourt, dans le sud-est du Nigeria. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP des passagers ayant pu s'échapper. Emmanuel Macron va bientôt à se rendre à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'annonce a été faite par le président français ce mardi. Une visite dans le cadre de ses efforts diplomatiques pour créer un axe dit intégré entre Afrique, Méditerranée et Europe, notamment sur la question de la crise migratoire. Macron envisage également la création d'un Conseil Afrique. Nous y reviendrons dans la partie magazine. La Guinée équatoriale réclame au géant pétrolier français Total 48 milliards de francs CFA pour fraude dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le point avec Morgane Guiriec.
Le ministre équato-guinéen des Finances, Miguel Egonga Obiang, a déclaré qu'après des investigations, son pays a trouvé une situation suspecte et frauduleuse dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le gouvernement exige que le géant pétrolier français présente une proposition d'arrangement. Contacté par l'AFP, la direction de Total en Guinée équatoriale n'a pas répondu. Malabo dit avoir transmis le dossier à la justice pour déclencher une procédure judiciaire. Pour rappel, Théodorin Nguema, vice-président et fils du président équato-guinéen, est jugé en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. La justice française a requis à son encontre 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros.
Les Nations Unies ont condamné fermement l'intrusion hier de militaires de l'armée congolaise dans ses installations à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo. Ces militaires tentaient d'y arrêter un journaliste sous les ordres du général Marcelin Assoumani, commandant des opérations dans la région du Kasaï. Au Cameroun, le gouvernement demande de cesser sans délai toute reprise du signal, de même que toute diffusion des programmes d'une chaîne de télévision indépendantiste anglophone, sous peine de fermeture des entreprises câblo-opérateurs réticentes et de confiscation de leur équipement. Le ministre de la Communication dénonce le caractère séditieux et haineux de la SSBC de TV. Sur sa page Facebook, la chaîne se présente comme la voix de l'Ambazonie, du nom de la République indépendantiste que certains anglophones veulent créer pour rompre avec la majorité francophone du pays. Crise migratoire en Méditerranée, les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 300 migrants clandestins aujourd'hui. Claire Morin-Gibourg.
C'est un porte-parole des forces navales de Libye qui a confirmé l'information à l'agence Reuters. 140 migrants clandestins ont été sauvés tôt ce matin par les gardes-côtes libyens à l'ouest de Tripoli et un autre groupe de 164 migrants ont été sauvés de Sabratha, dont 7 femmes et 6 enfants. Des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Un plan d'action a été approuvé hier à Paris par le Niger, le Tchad et la Libye, ainsi que par 4 pays européens pour soutenir les pays qui luttent pour contenir le flux des migrants. Les dirigeants se sont mis d'accord sur le principe de la mise en place d'un mécanisme pour identifier les migrants légitimes qui fuient la guerre et la persécution et pour utiliser les Nations Unies pour les enregistrer au Niger et au Tchad afin de les empêcher d'être exploités par des contrebandiers. 140 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014.
En Égypte, au sud du Caire, 14 personnes ont perdu la vie à la suite d'un accident de la route. Un bus a chuté d'un pont après une collision avec une camionnette. 42 personnes sont également blessées. Rassemblement de soutien en Afrique du Sud en faveur de l'ancienne première dame, Madame Zunza, qui est accusée de motiver sa candidature au parti de l'ANC pour protéger l'actuel chef de l'État d'éventuelles poursuites judiciaires. L'ex-épouse du président sud-africain Jacob Zuma est également l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle fait partie des principaux prétendants à la direction du parti, l'ANC, le Congrès national africain, qui doit élire son nouveau chef en décembre. 2 millions de pèlerins du monde entier sont attendus cette semaine à La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Ils vont effectuer le grand pèlerinage musulman, l'un des 5 piliers de l'islam, tout fidèle athlète est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Power Africa, l'initiative lancée par Barack Obama en 2013, fait son bilan. Depuis sa création, Power Africa a mobilisé plus de 54 milliards de dollars d'engagement de la part de 140 partenaires issus du public et du privé. Le gouvernement américain a déboursé quelque 500 millions de dollars. L'objectif de cette initiative est de connecter 60 millions de foyers et d'entreprises à un réseau électrique. Si le Nigeria cumule près de la moitié des projets, en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin ont pu bénéficier de financement. Axel Emmanuel, un ancien banquier reconverti dans le chocolat, a lancé hier le premier bloc de chocolat fabriqué en Côte d'Ivoire. Il utilise des fèves de cacao certifiées commerce équitable et torréfiées par des femmes dans une coopérative pilote. Grâce à un partenariat public-privé avec la communauté urbaine de Douala, le marché Congo va être réhabilité à l'aide d'un financement de 7 milliards de francs CFA. Un espace de 1400 boutiques devrait ouvrir en septembre 2018 dans la capitale économique camerounaise.
C'est le moment de passer au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Ikia, bonsoir à tous.
Plus que deux jours avant la fin du mercato et les prix des joueurs ne font que grimper.
Oui Ikia, après avoir formulé une offre de 72 millions d'euros pour acheter les trois années de contrat de Thomas Lemar, le monégasque de 21 ans, Liverpool revient à la charge avec une nouvelle offre, cette fois-ci de 80 millions fermes, plus le prêt de l'international belge Divock Origi. Les Reds proposent 50 millions payables dès cet été et 30 millions l'été prochain.
On est également proche du dénouement de l'affaire Kylian Mbappé.
Tout à fait, le PSG et Monaco pourraient convenir d'un prêt d'un an avec option d'achat pour permettre au club parisien de respecter le fair play financier. Le coût de l'opération est estimé à 180 millions d'euros.
Justement, Mercato tient déjà le remplacement de Kylian Mbappé, Monaco,
tout à fait, Ikea. L'attaquant monténégrin Stevan Jovetić s'est officiellement engagé avec le club de la Principauté. Il a signé un contrat de 4 ans. Âgé de 27 ans, Jovetić a été prêté la saison dernière au FC Séville où il a inscrit 7 buts en 24 matchs. Le champion de France a déboursé 11 millions d'euros auprès de l'Inter de Milan pour récupérer le joueur.
Emen Abdennour, lui, fait son grand retour en Ligue 1.
Effectivement, le défenseur central tunisien a passé sa visite médicale à Marseille. Les dirigeants de l'OM ont trouvé un accord avec Valence CF sur un prêt de 2 ans. L'ancien Toulousain et Monégas a donné sa préférence au club phocéen après avoir pourtant passé sa visite médicale avec le Zénith Saint-Pétersbourg en fin de semaine dernière. Mais l'intérêt marseillais dans la dernière ligne droite, on va le dire comme ça, a tout changé.
Tennis pour terminer, Sharapova s'offre Alep pour son retour en Grand Chelem.
Oui, la Russe Maria Sharapova a battu la numéro 2 mondiale, la Roumaine Simona Alep, 6-4, 4-6, 6-3 au premier tour de l'US Open pour son premier match en Grand Chelem depuis janvier 2016. Sharapova, 30 ans, a infligé une 7e défaite en autant de confrontations à Alep, qui espérait décrocher la première place mondiale à l'issue de ce tournoi. C'est peine perdue. Et puis, coup de tonnerre, l'Allemande Angélique Kerber, tenante du titre, a été éliminée aujourd'hui même. Dès son entrée en lice dans l'édition 2017 de l'US Open, Kerber, 6e mondiale, s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-1 face à la japonaise Naomi Osaka, 45e au classement mondial.
Merci beaucoup, Yakuba.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Togo. Début aujourd'hui à Lomé et ce pour 3 jours consécutifs de manifestations de rue à l'appel du parti au pouvoir Unir, une sorte de réplique à l'opposition qui demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
L'Union pour la République Unir, le parti au pouvoir, va mettre dans les rues ses militants et sympathisants. Le parti du président togolais Faure Gnassingbé dit vouloir marcher pour la paix au Togo. Baptisé Marche pour la paix, par ses manifestations, Unir entend soutenir les institutions de la République et dénoncer les actes de violence commis contre les forces de l'ordre et de sécurité dans leur mission, annonce un communiqué du parti. Pour certains observateurs, ces manifestations du parti au pouvoir ne sont qu'une démonstration de force en réponse à la mobilisation du Parti national panafricain PNP du 19 août dernier. Ces marches ne sont pas destinées à s'opposer à qui que ce soit, a déclaré Gilbert Bawara, un cadre du parti. Elles visent plutôt à réaffirmer l'attachement du Parti Unir et de ses militants à la démocratie, à l'état de droit, a-t-il soutenu. Cette formation politique dit être engagée à réaliser les réformes exigées par l'opposition dans un esprit consensuel. Sauf que dans les faits, cette bonne volonté affirmée du parti au pouvoir patine depuis 11 ans. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Bénin. Au Bénin, plusieurs dizaines de propriétaires répartis sur plus de 235 hectares de terre dans une localité située à quelques kilomètres de Cotonou sont sous une menace d'expropriation. C'est par un arrêté préfectoral que certains propriétaires ont été sommés d'abandonner leurs terres parce que le domaine serait d'utilité publique. Une décision qui n'est pas du tout au goût de tout le monde. Plus de précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginelle Fleur Adonde.
Près de 6000 parcelles déclarées d'utilité publique sans aucune démarche préalable aussi bien à l'égard des habitants concernés qu'à l'égard des autorités locales. C'est ce qu'on peut retenir du coup de gueule des habitants de Akasato situé dans le département de l'Atlantique à 30 minutes de Cotonou. Julien, très remonté contre la décision d'expropriation, parle de gangstérisme orchestré par les autorités sans aucune mesure d'approche.
Cette zone qu'on est en train de vouloir exproprier, une grande partie, possède des titres foncier. L'article 3 du décret qui explique la loi d'expropriation a été violé. On n'est pas venu nous voir. Comment puis-je avoir ma chose? On ne me voit pas, on vient me l'arracher. J'appelle ça du gangstérisme.
Disposition prévue par le code foncier au Bénin, il faut dire que les populations dans le cas actuel fustigent le passage en force. Madame Adjaro est fonctionnaire installée dans la zone depuis de nombreuses années.
Même à des milliards de francs, nous disons non. J'ai servi sur le flambeau de Bénin pendant 30 ans. J'ai acheté cette parcelle-là à tempérament dans une société où difficilement même j'ai eu la convention.
Ganiou est aussi un jeune propriétaire terrien. Il attendait la viabilité de la zone, mais quelle ne fut pas sa surprise devant l'annonce de la mesure d'expropriation. Pour lui, le gouvernement joue un rôle pas très clair car impossible de les contraindre à renoncer à leur parcelle après autant de dépenses englouties dans le lotissement, l'enregistrement, dans le seul souci de se mettre à l'abri de ces gens d'inconvénients.
Un domaine dans lequel les gens se sont installés en matériaux définitifs. L'État, après lotissement, a installé les populations. Et l'État qui déclare ne pas avoir les moyens, veut se donner aujourd'hui les moyens de dédommager cette population, alors qu'il y a d'autres zones dans le même arrondissement où l'État peut décider d'aller investir et développer ces zones. On ne comprend pas ce qui se passe dans ce dossier de déclaration d'utilité publique.
Paul, quant à lui, voit de mauvais œil qu'une telle mesure soit prise sans que les autorités locales ne soient dans le secret de la décision. Pour lui, cet état de choses témoigne d'un malaise profond.
Depuis que ce problème d'expropriation est arrivé, on a déjà enregistré 3 morts. Parce que lorsqu'ils ont appris ça, ils ont connu des crises cardiaques et ils sont morts. Les exemples sont là. Et beaucoup sont même malades actuellement. On a été voir le maire. Le maire aussi dit que lui, là, il est là quand on est arrivé lui imposer. On est dans quel état? L'arrêté ne nous a même pas été notifié. Nous l'avons reçu dans les couloirs.
Le ministre du cadre de vie, touché par les cris des habitants, a tenté de mettre sur pied une commission afin de réfléchir sur la situation. L'offre a été purement et simplement déclinée par les populations qui ont préféré saisir la justice pour être rétablie.
Le gouvernement intervient dans la pure légalité sur ce que le code foncier domanial permet à partir de août 2013. Maintenant, les investigations sont en cours et c'est la première étape de l'intervention du gouvernement.
Même si l'État a prévu un dédommagement, certains pensent qu'il n'y a aucun montant qui pourrait remplacer le sacrifice consenti sur cette terre aujourd'hui déclarée bien de l'État. De Cotonou, Jinatoula, dans les VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Afrique n'est pas seulement le continent des crises, c'est un continent d'avenir, mais nous ne pouvons pas le laisser seul. Petite phrase d'Emmanuel Macron ce mardi lors d'un discours de politique étrangère devant les ambassadeurs français. « Je me rendrai prochainement à Ouagadougou pour porter ce message », a-t-il ajouté. Le président français a par ailleurs officialisé la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique, tenant pour ce fait une promesse de campagne. Les membres de ce conseil seront chargés de le conseiller sur sa politique africaine. Pour en parler, John Lyndon, adjoint à Paris, Djemal Taleb, avocat d'affaires.
Alors, je l'accueille de façon absolument satisfaisante. Je considère que, pour une fois, il y a peut-être une volonté d'avoir une politique africaine un peu plus objective. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Est-ce que nous allons mettre encore un gadget de plus dans lequel nous allons placer des amis et un peu les copains qui n'en sont pas quelque part? Ou est-ce qu'alors il y a une volonté réelle de faire une vraie dynamique de la politique africaine de la France, c'est-à-dire une autre, une nouvelle politique, un nouveau regard et une nouvelle orientation?
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle France-Afrique, mais sous Macron?
Je souhaite que ça ne soit pas le cas et j'espère que ça ne sera pas le cas. Pour une fois, c'est le continent africain aujourd'hui, on a une génération de dirigeants qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu le copinage incestueux de la France-Afrique. Nous avons pour une fois un chef d'État français qui, lui, a 39 ans, c'est-à-dire qu'il est jeune et il ne connaît pas ce vieux réflexe de la France-Afrique. Est-il capable de mettre en œuvre ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder l'Afrique comme étant la locomotive de la France désormais et pas l'inverse, et que la France, pour qu'elle continue de jouer un rôle dans la mondialisation, pour qu'elle continue avec la puissance qu'elle est, avec un rang important au Conseil de sécurité des Nations Unies et un rôle important dans la scène internationale, elle a besoin d'une Afrique forte, mais une Afrique avec un regard différent.
L'un des outils décriés de la France-Afrique, c'est le franc CFA et le débat fait rage en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté pour les chefs d'État africains et même pour la France, de se départir de cette monnaie-là?
Alors, j'ai bien peur que la France n'ait pas encore compris que le franc CFA est une donnée de l'histoire coloniale et qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai bien peur que les dirigeants français ne l'aient pas compris. J'ai d'ailleurs pas davantage confiance dans les chefs d'État africains aujourd'hui qui n'ont tous pas le courage de le comprendre. L'ancien président ivoirien, le président Gbagbo, disait une chose à juste titre. Il dit, nous avons deux problèmes, le franc CFA et les armées françaises en Afrique. Il faut relativiser. Moi, je ne suis pas pour casser quoi qu'il en soit, mais je pense que le franc CFA n'a plus de sens aujourd'hui.
Emmanuel Macron a réuni à Paris les chefs d'État africains pour discuter de la question des migrants. A-t-on besoin d'aller à Paris pour cela?
Ah, ça m'attriste, je vais vous dire, pour être très sincère avec vous, parce que je considère que s'il veut parler d'immigration, il faudrait d'abord aller en Afrique. Mais les convoquer tel une espèce de sujet pour venir parler d'immigration, ça m'emmerde un peu. Et je vais vous dire, ça m'embête tellement qu'il y a tellement de sujets utiles dont on peut parler qui n'est pas l'immigration. L'immigration est une chose absolument dramatique et je vais vous dire, quand un Africain n'a comme rêve que de demander le visa ou monter sur une barque pour s'échouer afin de quitter son pays et son continent, c'est une tristesse. Et donc les chefs d'État africains devraient se réunir entre eux-mêmes pour réfléchir d'abord sur ce sujet-là, avant d'être convoqués par une espèce de proconsul ou de suzerain qui va leur dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien à faire.
C'était Djemal Taleb, avocat d'affaires à Paris, interrogé par John Lyndon.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Une coutume ancestrale burundaise appelée Nikozubakwa, qui incite la femme à accepter sa soumission, est aujourd'hui remise en cause par certaines d'entre elles. Face à la maltraitance dont elles sont souvent victimes, certaines n'hésitent plus à prendre leur destin en main. Reportage à Bujumbura avec notre correspondant Christophe Kurunzinza.
Une bande de joyeux enfants joue ensemble dans une parcelle située dans un des quartiers populaires de Bujumbura. Parmi ces enfants, quatre vivent avec leur grand-mère. Leur maman, après 15 ans de vie commune avec son mari, a finalement quitté son mari qui l'a maltraité au quotidien. S'il est vrai qu'elle est au courant de la coutume appelée Nikozubakwa, qui appelle les femmes burundaises à accepter tous les caprices du mari pour protéger le ménage, la femme a finalement jeté l'éponge. Témoignage.
Bon, j'ai vécu pendant 15 ans ensemble avec mon mari, mais 10 ans étaient très difficiles. J'ai vécu 10 ans dans les insultes. On se parlait avec des insultes. On ne programmait jamais ensemble l'avenir de nos deux enfants. Et puis j'ai opté quitter mon mari il y a 2 ans.
Certes, cette pratique ancestrale burundaise avec des valeurs positives de respect et de cohabitation pacifique entre les couples mariés ou pas, aujourd'hui, la majorité des femmes burundaises ne supportent plus d'être maltraitées par leur conjoint. Cet homme, marié, père de 2 filles, revient sur la définition initiale de cette coutume burundaise.
Pour nous, elle n'est pas toujours d'actualité avec l'évolution du monde que nous vivons. Mais il y a toujours des bashingana et des bafasun qui la font respecter. Nikozubakwa, ça veut dire que des fois, une femme peut se plaindre comme quoi elle est maltraitée et pense que la meilleure solution, c'est le refuge chez son père et sa mère. Donc, si tu veux vraiment fonder un foyer stable, vois ton mari au visage de ton père qui est devant toi. La femme de même, le visage de sa mère. S'il y a quelqu'un à respecter, s'il y a quelqu'un qui vous aime énormément, ce sont les deux parents. Il y a toujours des malentendus, ça c'est normal. Mais trouver le refuge chez elle ou chez lui, ce n'est pas la solution.
Cet autre homme, sexagénaire, estime que la solution dans un couple réside dans l'échange mutuel entre les conjoints qui peuvent trouver ensemble une solution à leurs différends.
Il y a moyen de supporter ou de ne pas supporter. D'un côté, supporter, ça dépendra de combien de fois vous êtes maltraité. Chez les hommes qui tapent les femmes, moi je leur dirais qu'ils peuvent cesser. C'est pas les bâtons ou les gifles qui donnent des leçons. Mettez-les à côté, causez, il y en aura la solution.
Causerie, échange, la vie en commun entre les conjoints burundais, malgré cette coutume de Nikozubakwa, mérite plus d'attention entre la femme et l'homme pour le bonheur des enfants, selon un adage burundais qui appelle à plus de respect entre les couples. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Hey, hey. Hey, hey. C'est bon, hey.
Everybody on the floor, come and join the party. Everybody on the floor, come let's have some fun. Everybody on the floor, come and join the party. Everybody on the floor, come let's have some fun.
Ladies and gentlemen, my name is Nuru Foko, DJ Frost, DJ of Ivory Coast. Okay, 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 that's right, that's right.
Cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagno, Bill Barber était à la console, à la présentation et Kiabadou. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à vous.